à ce moment-là, et ils le regardaient, ils avaient le regard fixé sur lui. Puis c'est ce que nous allons faire ce soir, garder nos regards fixés sur Jésus, parce qu'il n'y a pas aucune autre personne que lui qui doit être intéressante ce soir. C'est aussi, je crois, la personne la plus importante à rencontrer dans une vie, à connaître dans une vie. Lui seul est en mesure de faire toute la différence en bout de ligne. Dans le texte, il est question ici du but, justement, de la venue de Jésus sur terre. Il y fait mention de délivrance, de libérer aussi l'opprimé. Il est question donc de liberté. Et la liberté, c'est encore aujourd'hui, à notre époque, l'un des plus grands objectifs des différentes sociétés ou nations de notre planète. Et c'est l'une aussi des plus grandes revendications donc dans notre époque. On a juste à penser aux chartes des droits et la liberté. Et donc, on peut dire que personne, ici même, est intéressé à vivre comme des esclaves. Aujourd'hui, on est rendu à l'ère de la haute technologie, de l'informatique, du cellulaire, du iPod, du iPad. Malgré tout ce progrès-là, on a quand même l'impression que dans notre société, il y a quand même un vide. Puis en plus, tout est vite. Hein? C'est la tyrannie de l'urgence. Puis je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais on dirait que justement, cette société dans laquelle on vit, il n'y a pas d'âme. On parle de liberté partout, peu importe le domaine, que ce soit dans la famille, à l'école, au travail, dans les villes, en région, partout, dans la province, dans le pays, que ce soit un régime politique en tel pays, la situation de tel ou tel peuple. Peu importe le pays, peu importe le continent, on veut être libre. On veut la liberté, toujours encore plus de liberté. Et on en parle de la liberté. Et en même temps, on veut comme pas rendre compte à personne de rien. On veut être libre de faire ce qu'on veut, comme on veut, quand on veut, et on veut pas de Dieu, ni de d'autres maîtres. C'est ce qu'on peut appeler vivre et laisser vivre. Puis il y a des slogans de liberté, il y en a eu au travers le temps, au travers de toutes les nations. Puis qui se souvient du fameux « Vive le Québec libre » du général de Gaulle? Puis encore aujourd'hui, la liberté est réclamée partout dans le monde, que ce soit la liberté de parole, la liberté de choix. Et on entend souvent parler non seulement de libération, je ne sais pas si ceux qui s'en souviennent des années 70, le mouvement de libération de la femme. On parle aussi de libéralisation, les libéralisations des marchés, le libre-échange. C'est certain que ces mots-là ont tous une même racine. Mais toute cette recherche de liberté-là, c'est souvent un prétexte, par exemple, malheureusement, pour ouvrir la porte à une plus grande permissivité. Et avec cette permissivité-là, on ne sait plus ce que vraiment veut dire liberté. Qu'est-ce que la liberté signifie pour vous? Comment vous percevez ce terme, liberté? Quand on s'arrête à réfléchir, il me semble qu'il y a bien des choses qu'on met dans le sac de la liberté. Liberté, permissivité, autonomie, indépendance, autosuffisance, tout ça, ça rentre dans le même sac. Pour plusieurs, être libre, c'est pouvoir vivre sans restriction, sans loi. C'est pour ça que, par exemple, dans le monde, il y a eu l'union libre, l'avortement libre, la drogue libre, l'amour libre. En fin de compte, le monde veut tout libérer. Puis tout d'un coup, on est arrivé dans une société aujourd'hui où presque tout est permis. Une société dont la définition de la liberté a vraiment plus rapport avec ce que Dieu veut dire par liberté. Beaucoup de gens se disent libres, en réalité, sont de vrais esclaves. Et on veut être libre, et pour l'obtenir, plusieurs utilisent même la violence pour y arriver. Il y a des gens qui se sont fait carrément trancher la tête pour la liberté. Combien de guerres au nom de la liberté? Et souvent, la liberté de l'autre, dans sa définition, n'est souvent pas la nôtre. Et là, on ne sait plus vraiment ce que ça veut dire, liberté. Alors, plusieurs disent que si on enlèverait les gouvernements, on deviendrait plus libre. En réalité, on sait que la liberté sans gouvernement, ça mène au désordre et à l'anarchie. Il y a plein de gens qui veulent nous vendre la liberté, qui nous promettent la liberté, puis dans 2 Pierre, Pierre nous rappelle dans sa deuxième lettre, chapitre 2, deuxième lettre, verset 19, ils promettent la liberté quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Mais il faut être réaliste. Même si dans bien des choses plus ou moins importantes dans la vie, nous avons la liberté de choisir, en réalité, il y a aussi bien des choses dans la vie qu'on ne choisit pas ici-bas. Des choses qu'on subit, malgré nous. Par exemple, qui a demandé à venir au monde? Lequel d'entre vous, ici, a choisi de naître? Pourtant, la naissance, c'est très important, parce qu'il y a toute une vie qui s'ensuit. Personne ne nous a donné le choix de naître. Pourtant, c'est important. Qui parmi nous a choisi le pays dans lequel il n'était pour naître? Personne. Bien des enfants sont nés dans le tiers-monde, ils auraient préféré naître au Québec, ou au Canada, ou aux États-Unis, en Suisse, en Allemagne. Personne d'entre nous n'a choisi de venir, de naître au monde. Personne n'a choisi le pays dans lequel il naissait. Personne n'a choisi sa race, la couleur de sa peau, sa langue maternelle. Personne n'a choisi son sexe. Malgré qu'aujourd'hui, il y a des femmes qui veulent devenir des hommes, qui essaient de devenir des hommes qui essaient de se transformer en femmes. C'est une donnée qui est fausse. C'est pareil comme si on dirait que Dieu, ce qu'il a fait, il ne l'a pas fait comme il faut. Dieu nous a fait hommes, il nous a fait femmes. Faire autrement, c'est comme se révolter devant Dieu. Maintenant, qui a choisi parmi nous, parmi vous, qui a choisi son nom? Aujourd'hui, c'est vrai, tu peux choisir, tu ne choisis pas ton nom, mais tu te ramasses bien souvent à cette heure aujourd'hui avec 2 noms de famille en plus. Puis tu t'imagines, tu as 2 noms de famille, puis tu vas peut-être rencontrer une fille qui a 2 noms de famille. Vous allez avoir l'embarras du choix pour vos enfants. Et vos enfants ne choisiront pas encore leur nom. Moi, je n'ai pas choisi mon prénom. Ma mère est ici, c'est elle qui a choisi mon prénom. Vous non plus, vous n'avez pas choisi votre prénom. Quoique aujourd'hui, pour ce qui est du nom et du prénom, il y a moyen, moyennant certaines compensations, vous pouvez changer votre nom. Il y a des noms que je n'aimerais pas porter, puis comme il y a certainement des gens qui n'aimeraient pas s'appeler Duguay. C'est pareil pour chacun de nous. Je ne sais pas si vous savez, il y a même une chanson sur les Duguay, mais je ne vous la chanterai pas. On n'a pas choisi son nom, ni son prénom, mais on peut se consolider à l'idée qu'on va choisir le nom de nos enfants. Maintenant, avez-vous choisi la couleur de vos cheveux d'origine? Parce que oui, les femmes peuvent changer vos cheveux. Les hommes aussi. Dès que le moment qu'il y a un petit peu de gris, on peut ajouter quelque chose pour les foncer. Non, personne. À l'origine, personne n'a choisi la couleur de ses cheveux. Moi, j'ai les couettes raides. Je n'ai pas choisi d'avoir les couettes raides. Je pourrais les faire friser, mais ce n'est pas naturel. Mais au départ, j'ai les couettes raides. Nos psychologues disent que beaucoup de gens ont de la difficulté à s'accepter tels qu'ils sont. Puis étant donné qu'ils ne s'acceptent pas, bien, les gens ils se créent d'autres personnalités pour se cacher en arrière. Un autre personnage que la vraie personnage. Donc, chez beaucoup de personnes, il y a un tiraillement, un combat entre ce personnage qui se fabrique et leur personnalité propre. et ils deviennent angoissés par rapport à ça. Il y en a qui se plaignent d'avoir un gros nez ou un grand nez. Vous savez que la légende qui dit que si tu dis des mensonges, le nez va t'allonger. Pinocchio, c'était un peu ça. Il faudrait que je fasse attention. On ne choisit pas non plus notre visage. On ne choisit pas non plus d'être chauve ou d'avoir des cheveux. Il y en a qui perdent leurs cheveux très tôt. Moi, je n'ai pas choisi d'être poilu. Je suis bien poilu. Quand il fait chaud, il fait chaud. Puis là, la barbe a commencé à blanchir. Et puis, je me dis, ah, ça se peut-tu? C'est ça. Je n'ai pas choisi, là, mais je vieillis. Pas le choix. À cette heure, avez-vous choisi votre religion? Au départ, dans la vie, chacun de nous, on hérite la religion de nos parents, la tradition de nos parents, de nos grands-parents puis de nos ancêtres. Puis du fait qu'on est ici au Québec, bien, la plupart d'entre nous, nous sommes ou nous étions catholiques. Les Anglais plus souvent qu'autrement étaient anglicans ou protestants. Les Arabes aujourd'hui sont plus souvent qu'autrement, la plupart musulmans. Les enfants qui naissent dans ces pays-là, ils n'ont pas le choix. Ils ont la religion de leurs parents, comme ici. Dans d'autres pays, c'est bouddhiste ou hindou. D'autres ici aussi sont témoins de Jéhovah ou mormons. Il y en a des religions, en veux-tu, en v'là, il y en a une panoplie. Mais notre religion, à l'origine, nous ne l'avons pas choisie. Maintenant, la mort, elle. La mort. On la choisit-tu? Elle se moque bien de savoir la couleur, la mort. Et il y en a qui disent qu'ils aimeraient, et on aimerait avoir une belle mort. Parce qu'il faut en venir à une réalité, c'est que tous ici, autant que nous soyons, nous allons avoir à faire face à cela. On est tous condamnés à mourir un jour, à moins que le Seigneur revienne avant, pour nous chrétiens. Et pour ce qui est de la mort, comme pour ce qui est de naître, bien, la plupart du temps, on ne choisit pas de mourir. Puis encore aujourd'hui, au moment où on se parle, dans cette journée qui va se compléter, qui va se terminer, malheureusement, il va y avoir des hommes et des femmes qui auraient aimé continuer à vivre, mais qui ont vécu leur dernière journée. Puis il y en a qui pourraient vous témoigner, avoir vu des gens qui, rendus dans le dernier moment, dire, avec le peu de force qui leur restait, « Je veux vivre. » Quoi dire à quelqu'un qui dit, au ce dernier souffle, je veux vivre. Quoi y répondre? Où est sa liberté face à la mort? En réalité, qui vraiment est libre parmi les hommes? Ah, on aimerait tous avoir une belle mort. En réalité, pensez-y bien. Ça existe-tu une belle mort? À part ça, c'est-tu beau, la mort? C'est assez laid, la mort. Ce n'est pas quelque chose qu'on aime. Ce n'est même pas quelque chose qu'on aime parler, la mort. Même y penser. Parce que la peur de la mort, par exemple, c'est quelque chose qui se retrouve dans la plupart d'entre nous, à l'intérieur de chaque personne. C'est sûr qu'on peut faire le fanfaron vis-à-vis ça, mais quand la mort est là, puis autre chose. Où sont les amis? Et dans un sens, il y a un destin avec lequel on ne peut rien. Finalement, la liberté, c'est relatif. Alors, quand on réclame haut et fort, on demande la liberté, il faudrait y penser. C'est seulement ce qui nous reste comme choix à faire, là, qui peut faire de notre vie une réussite ou bien un échec, une existence heureuse ou malheureuse, que l'on vit véritablement ou bien non, qu'on vivote ou qu'on végète, ça peut dépendre, oui, des choix qui nous restent à faire dans notre vie de tous les jours. Et ces choix-là qui nous restent à faire nous rendent chacun de nous responsables. Et il n'y a pas de choix sans risque. On aimerait tellement être libre sans avoir de responsabilité. Et aujourd'hui, c'est justement la caractéristique de notre société, de refuser la responsabilité tout en voulant la liberté. Mais il n'y a pas de liberté sans responsabilité. C'est pour ça que Dieu n'a pas voulu qu'il y ait de liberté sans loi. Et puis, il n'y a pas de vraie liberté sans amour. Et Pierre, justement, dans sa première lettre, chapitre 2, verset 16, il dit que cette liberté que vous avez en Christ ne soit pas un voile, un prétexte pour marcher contre la volonté de Dieu, pour marcher de façon inique, méchant, pour être difficile envers son prochain, qu'on est tous appelés à aimer. Il n'y a pas de vraie liberté sans amour. Jésus a dit dans Matthieu 22, chapitre 22, verset 37 à 39, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, et ton prochain comme toi-même, tu l'aimeras comme toi-même. » Comment parler de liberté sans parler d'amour? Et comme il ne peut pas avoir de liberté réelle, authentique, sans loi, il n'y a pas non plus de vraie liberté sans amour. Puis là, mais dès qu'on parle de loi, on fait un pas en arrière. Qui veut nous mettre sous la loi? Dans Exode chapitre 20, Dieu nous a donné des commandements comme on peut dire un mode d'emploi par rapport à la liberté que Dieu il nous accorde lui-même. C'est une sorte de code de vie. C'est comme si Dieu nous disait, vous êtes libre, mais voilà comment utiliser votre liberté, cette liberté que je vous ai donnée, afin que vous soyez heureux avec les autres. Et la loi procure et ne procurera jamais le salut. Nous savons, le salut, c'est par la grâce de Dieu. Mais pour ce qui est de notre vie maintenant, ici-bas, notre marche, Dieu nous veut libres, mais pas n'importe comment. Parce que dans la vie, ici, il n'y a pas juste nous. Il y a les autres. Puis c'est comme ça qu'il faut comprendre la loi de Dieu. C'est comme le code de la route. Je ne sais pas si vous auriez courage de prendre votre voiture à 7h30, parce que ça va terminer. Si là, le gouvernement décrétait qu'il n'y aurait plus de signaux là, dans la rue, s'il n'y aurait plus de code routier, il n'y aurait plus de loi. Supposons qu'en sortant d'ici, on pouvait conduire à gauche, comme on voudrait, puis là, il n'y aurait plus de feu de circulation, plus de stop. On peut monter sur le trottoir, on peut passer à travers le parc des chenaux. Pas de problème, ça n'aurait pas d'allure. Hein. Mais parce que Dieu nous a donné une intelligence pour qu'on s'en serve, pour qu'on l'utilise comme il faut, l'homme a fait aussi, l'homme, des lois, un code de route pour notre bien, pour notre sécurité. C'est ce code-là qui nous guide afin de mieux utiliser notre liberté sur la route pour le bien de l'ensemble. Puis heureusement que ces lois-là, autrement, ça serait un vrai suicide collectif. Donc, ça prend des lois sur la route. Même si des fois, ça peut ne pas faire votre affaire. Les lois sont là pour notre bien. Et c'est la même chose pour les lois de Dieu, pour ce qui est de la vie. Sans loi, nous ne pouvons pas vivre et jouir vraiment de la liberté qu'il nous a donnée. Comme les lois physiques, comme la loi de la gravité. Sur le plan spirituel, Dieu nous a donné des lois. Et s'ils sont violés, bien, automatiquement, ça engendre des conséquences. Un désordre, une conséquence directe. Mais Dieu nous a donné, comme je disais, ses lois, sa loi pour notre bien. Puis c'est ce qu'on peut lire tout le long de la parole de Dieu dans l'Ancien Testament. Et pas mettre en pratique la parole de Dieu et ses lois, on s'expose à des conséquences. Et il y a aussi, et Jacques en fait mention au chapitre 1, cette loi parfaite, la loi de la liberté, que Jacques parle dans son livre au chapitre 1, verset 25, et au chapitre 2, verset 12 aussi. Mais celui, il dit, qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. La loi parfaite, c'est la loi de la grâce. Jacques parle de la loi de la foi. Dans l'Ancien Testament, on sait que c'est l'amour de la loi, mais dans le Nouveau Testament, c'est la loi de l'amour. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean, chapitre 8, verset 36. Le Seigneur dit aussi, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Paul, dans Galates, chapitre 6, verset 2, dit, « Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez la loi de Christ. » Quelle loi? La loi de Christ. 1 Jean, chapitre 5, verset 3, « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. » Et ces lois-là ne sont pas pénibles pour nous. Et le fait d'être enfant de Dieu ne nous autorise pas à briser les 10 commandements. Notre motivation, par contre, comme chrétien, doit venir de son amour, de sa grâce, de son esprit qui habite en nous et qui nous inspire. Mais pourtant, il y a tant de personnes qui sont malheureux en amour aujourd'hui. Pourquoi sont-ils malheureux en amour? Parce qu'on a violé les lois de l'amour. Pourquoi qu'il y a tant de foyers brisés? Pourquoi qu'il y a tant de souffrances dans les familles? Parce qu'on a violé les lois de la famille que Dieu a faites pour la famille. C'est parce que les lois de Dieu ont été violées, parce que la volonté de Dieu n'a pas été obéie, on n'a pas obéi à la volonté de Dieu, qu'il y a tant de souffrances et de désordre. De la même manière que tant de souffrances et de désordre lorsqu'on viole les lois de ce monde ici-bas. Et comme on n'est pas des robots, c'est important qu'on sache tous, les jeunes et moins jeunes, que pour pouvoir faire des bons choix dans notre vie, c'est important connaître la volonté de Dieu. Et pour que Dieu puisse te bénir dans ta vie, c'est important que tu connaisses sa volonté, sa parole et surtout Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Son amour envers toi, sa grâce. La Bible dit que violer les lois de Dieu, c'est ça, péché. Et péché, c'est quoi? C'est perdre sa liberté. Et la Bible dit quoi? Qu'on est tous pécheurs. Tous ont péché. Tous ont violé les lois de la liberté que Dieu nous a confiées. C'est pour ça qu'il y a tant de souffrances. C'est pour ça qu'il y a tant de problèmes, de désordres de toutes sortes dans le monde. Parce que nous avons péché. Et péché, c'est violer, transgresser la loi de Dieu. Et on veut vraiment parler de liberté. Et si on veut vraiment parler de liberté, il faut parler de Dieu et de Jésus-Christ. Et donc, tous, nous ne sommes pas libres à cause de nos péchés. Puisque c'est le péché qui empêche la vraie liberté. Le péché qui enveloppe si facilement, qui empêche d'avancer, de progresser, de maturer. Et c'est quoi le péché? Bien, le monde l'interprète à sa manière. Et Dieu, lui, appelle un chat un chat. Il appelle les choses par leur nom. Un péché, c'est un péché. Et d'où vient le péché? Jésus dit dans Marc 7, chapitre 7, verset 21, c'est du dedans du cœur de l'homme que sortent les mauvaises pensées. Qui peut dire qu'il n'a jamais eu de mauvaises pensées? Pas moi, en tout cas. C'est du dedans du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, que sortent la corruption sexuelle, les meurtres, les vols, le mensonge, la méchanceté, l'orgueil, l'amour de l'argent. Toutes des choses qu'on connaît tous. « Pourtant, dans tous les pays sur la Terre, sur la planète, le péché aujourd'hui est encore le problème numéro un. Problème numéro un dans le cœur de l'homme. Et l'homme est mal dans sa peau à cause de ce problème-là. Les angoisses, l'amertume, les tourments que nous vivons à l'intérieur, ça vient de là. De ce désordre qui vient du fait que nous transgressons les lois de la liberté de Dieu. Et quand on a compris cela, on a réellement compris, fait un bon bout de chemin. Puis on est sur le chemin de s'en sortir. Mais Paul dit, dans Galates chapitre 5, verset 1, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Alors, qui peut dire ici qu'il n'est pas pécheur? La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, verset 23. Donc, tous, nous ne sommes pas libres, mais esclaves. Et encore aujourd'hui, l'homme est esclave de ce qui a triomphé de lui. Pour certains, c'est l'alcool. Pour d'autres, c'est la drogue. Pour d'autres, c'est l'amour de l'argent. D'autres, c'est le sexe. Bien sûr qu'il y a des choses légitimes, mais pour toute chose, l'abus mène à l'esclavage. Pour certains, c'est le jeu. Il y a des gens qui ont perdu tout à cause du jeu. Puis, vous leur parlerez, puis ils vont vous dire, « Je suis comme ça, je ne peux pas changer. Je suis comme ça, ce n'est pas de ma faute. » Nous sommes esclaves. Il y a un proverbe qui dit, « Chasser le naturel revient au galop. » Pourquoi chasser le naturel? C'est pourtant ce qu'on a reçu au départ. Pourquoi vouloir s'en débarrasser? C'est parce qu'on sait qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. On sait qu'il y a un problème. On essaie de s'en débarrasser, mais ça nous colle après nous. Ça nous colle à la peau, comme on dit. Parce qu'on dirait qu'on a ça dans le sang. Et c'est ça le naturel. Et on est naturellement orgueilleux, jaloux, haïssable. Qui peut dire qu'il n'a jamais haï dans son cœur? Mais Dieu veut qu'on prenne conscience de ce qui nous sommes. Mais nous autres, par nous-mêmes, on déforme ça dans nos pensées. Mais Dieu veut qu'on sache qui nous sommes vraiment. Pour qu'on soit guéri, qu'on se rende compte qui qu'on est, qu'on se sente bien dans notre peau. Mais par nous-mêmes, on n'est pas capable de changer par nous-mêmes. Personne n'est capable de changer par lui-même. C'est seul Jésus qui peut nous changer, nous transformer, qui peut nous guérir, nous libérer de l'esclavage. Jésus a dit dans Marc 7, verset 21, où est le problème? On l'a lu tantôt, du dedans du cœur de l'homme. Cœur méchant par-dessus tout. Puis laisser à nous autres mêmes, c'est peine perdue. C'est pour ça que Jésus est venu, pour nous sauver de notre état de pécheur, de nos péchés, pour nous libérer. Vous savez, la Bible parle d'empire. Pas l'Empire britannique ni l'Empire Microsoft, mais du véritable empire, celui du péché. Romains chapitre 3, verset 9. « Quoi donc? Sommes-nous plus excellents? Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, c'est-à-dire tous, sont tous sous l'emprise du péché. » Et puis le grand empereur, on le connaît. La Bible parle d'un seul tyran et la Bible même l'identifie. Le menteur, l'ennemi, le séducteur, le prince de ce monde, Satan. Vous avez pour père le diable, dit Jésus aux Juifs de son temps, ceux qui le rejetaient. Comment s'en sortir d'abord? Jésus dit dans Jean, chapitre 8, verset 36, « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » C'est le Fils seul qui peut nous affranchir, Jésus-Christ. Et c'est ça, la bonne nouvelle. Il est venu pour cela. Et pourquoi peut-il faire ça? Parce que la Bible dit qu'à la croix, Jésus a brisé justement ces puissances-là d'esclavage qui nous asservissent. Il a triomphé d'elles à la croix. La puissance des ténèbres a été vaincue par Jésus à la croix. Donc, celui et celle qui fait confiance au Christ devient réellement libre. Celui qui place sa confiance en Jésus, en son œuvre à la croix, qui a pris nos péchés, il a subi le châtiment qui nous donne la paix. Et c'est vrai. Alors ce soir, ma question, c'est, es-tu réellement libre? As-tu la pleine liberté? Vous vous souvenez des questions au début, avez-vous choisi de naître? Personne n'a choisi ça. Personne n'a été libre de naître. Personne sur la terre n'a été libre de naître, sauf un, Jésus. Jésus a été le seul qui a choisi de naître, de venir ici. Il était le seul homme qui a foulé la terre et qui a été véritablement libre. Il a dit aux Juifs, avant qu'Abraham fût, « Je suis, Dieu s'est fait homme. » Qui peut parler comme ça? Seul Jésus. Il a dit, « Moi, je suis d'en haut. Vous, vous êtes d'en bas. » Jésus est le seul qui a choisi de naître ici-bas. Il a même choisi la femme qui devait le mettre au monde. Il a choisi la nation. Il l'avait dit d'avance, parmi les Juifs, dans cette lignée descendante de David, de toute éternité. Il est celui qui est. Je suis. Il existait avant même sa naissance, puisqu'il était Dieu. Il a toujours existé. Et en plus, il a choisi le pays, il a choisi la ville où il est né, Bethléem. Il a même choisi sa façon de mourir. Toute une façon, assez atroce, sur une croix. Comme le pire des brigands. Il est descendu sur la terre dans l'endroit le plus bas. Puis il s'est humilié, se rendant jusqu'à la croix. C'était sa raison de venir. Il a choisi de naître pour nous. Il dit, je donne ma vie afin de la reprendre, mais je la donne moi-même. J'ai le pouvoir de la donner. Ça, c'est vraiment un homme libre. Il est mort pour nos péchés. Non seulement il a choisi sa façon de mourir, mais aussi il est ressuscité. Il a choisi de revivre. Il est sorti vivant. Il n'est pas resté là. Il était libéré. Il s'est libéré des liens de la mort. Et si tu le connais aujourd'hui, si je le connais, si nous le connaissons, on n'a même pas les mérites de le connaître. Ce n'est pas nous, si nous sommes chrétiens, qui avons choisi Jésus. C'est lui qui nous a choisis. Pas par nos mérites, mais par pure grâce, souverainement. Tout vient de lui. Et tout vient de lui. Ta naissance, ton sexe, l'époque dans laquelle tu es né, tes parents, ton nom, ta vie, puis ta nouvelle naissance. Alors, quand on a affaire à Jésus-Christ, on a affaire à un homme libre, vraiment libre. Le seul que la terre a jamais connu qui était réellement libre. Fait que ce soir, ce que je fais, il t'invite à lui faire confiance, de croire à sa personne, de croire à ce que la Bible dit à son sujet, à ce qu'il accomplit à la croix pour toi. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir, seulement comme ça que tu vas pouvoir goûter à la vraie liberté. Lui seul a le pouvoir de te libérer de l'esclavage du péché et te donner la vie, la vraie vie, la vie éternelle. Et c'est ce que Jésus t'invite encore aujourd'hui, à la vraie liberté, une pleine liberté. Et cette liberté-là ne peut venir que seulement que celui qui a été cloué sur la croix. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, il est écrit, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » La parole de Dieu t'invite et elle t'appelle à croire que Jésus a payé pour toi. Totalement, en totalité, il a tout accompli. Il n'y a rien à y rajouter. Il a tout accompli pour toi parce qu'il t'aimait. Et il veut que tu sois avec lui un jour dans son ciel. Il accomplit ça comme Dieu l'avait promis dans les temps anciens, même dans l'éternité. Et mon souhait, c'est que chacun de nous ici, présents ici ce soir, nous puissions tous individuellement jouir de cette pleine liberté en Jésus-Christ. Et vous savez, la pleine liberté, tu peux en jouer quand tu ne manques pas d'occasion, tu ne manques pas la capacité ou l'habilité, tu ne manques pas non plus le désir qui pourrait t'empêcher de faire ce qui va te rendre heureux pendant longtemps, 1000 ans, une éternité. Autrement dit, pour être pleinement libre, tu dois avoir l'occasion, la capacité, le désir de faire ce qui va te rendre heureux, même dans 1000 ans d'ici. Encore une autre façon d'exprimer ça, ce serait de dire qu'il existe 4 genres de liberté, ou plutôt 4 étapes qui mènent vraiment à la pleine liberté qu'on recherche tous. Premièrement, la liberté d'avoir l'occasion de faire ce que nous pouvons, la liberté d'avoir la capacité de faire ce que nous désirons, la liberté d'avoir le désir de faire ce qui va nous apporter un bonheur durable, éternel, de jouir un bonheur sans fin. Puis je prendrais comme exemple le saut en parachute. Supposons que tu es en chemin vers l'aéroport pour aller faire ton premier saut en parachute. Mais en chemin, tu passes sur un nid de poule avec ta voiture, puis tu te ramasses dans le fossé, ton auto est scrappée. Parce que tu as perdu le contrôle. Alors, tout d'un coup, tu te retrouves dans la situation où tu n'es plus du tout libre pour aller sauter en parachute. Vous comprenez? Même si tu as le désir de le faire, c'est la première fois. Pourquoi? Parce que pendant que tu attends la remorqueuse, bien, l'occasion vient de passer. C'est raté. Et tu ne te trouves plus avoir cette liberté qui vient avec l'occasion. Maintenant, supposons que tu réussis à te rendre à l'aéroport. Tu te présentes à l'avion, mais on ne te demande pas de blanche, des preuves de ta compétence. Voir si tu peux sauter, as-tu suivi un cours? Mais le hic, c'est que tu ne l'as pas, la compétence. Fait que là, tu as eu l'occasion, mais tu n'as pas la capacité ou l'habilité nécessaire qui va pouvoir te permettre d'aller sauter en parachute. Tu n'as jamais suivi de cours, tu ne sais même pas les rudiments de base. Par exemple, comment fonctionne un parachute? Ça fait donc que l'occasion est là, mais là maintenant, tu n'as pas la liberté d'en jouer parce que tu n'as pas la capacité qui va avec ou le savoir-faire pour pouvoir exercer cette liberté-là ou jouer de cette liberté-là qui vient justement avec la capacité de faire ce que tu désires faire. Autrement dit, ta liberté, elle s'arrête là. Ton manque de connaissance, l'esclavage de ton... Tu es esclave de ton manque de connaissance. Mais maintenant, supposons, tu te rends à l'aéroport, puis tu es allé à l'école, tu es qualifié, tu as tout ce qui est requis, toutes les capacités, l'habileté nécessaire est là, tu peux embarquer dans l'avion, tu décolles pour ton premier saut. Un coup rendu dans les airs, au moment de sauter, tu regardes en bas, puis oups, tout à coup, ton désir, là, est parti. Et tu es maintenant habité par une peur bleue qui te paralyse. Alors, l'occasion était là. tu avais la capacité, la compétence, la liberté de t'exprimer. Mais là, ce qui est du désir, on repassera. Cette liberté du désir de sauter n'est plus là. Mais, savez-vous quoi? La chose intéressante et spéciale au sujet de la liberté du désir, c'est que tu pourrais aussi bien sauter sans elle. Sans le désir. Je dis comment ça? Par contre, ça ne serait pas nécessairement. On ne pourrait pas parler vraiment d'agir librement. Pourquoi? Parce que, par exemple, tu pourrais te sentir tellement humilié devant ton instructeur, tellement honteux que ton désir de ne pas être humilié pourrait surpasser ton désir de ne pas sauter. Et comme ça, tu pourrais te décider à sauter. Mais je ne pense pas que tu éprouverais une expérience vraiment émotive et exaltante ou l'extase qui vient de la vraie liberté. Parce que ça va être motivé par la pression, par des contraintes extérieures que tu sauterais pour plaire à quelqu'un d'autre. Ça, ce n'est pas une situation bien confortable. En fait, tu te retrouves un peu à agir comme Hérode quand sa belle-fille lui a demandé la tête de Jean-Baptiste. Il ne voulait pas tuer Jean-Baptiste. Mais en même temps, il ne voulait pas perdre la face devant ses invités. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait trancher la tête. Sans avoir cette liberté-là du désir du cœur. Il est esclave des autres, de ce qu'ils vont penser, de ce qu'ils disent. Tu as la liberté du désir quand tu fais ce que tu aimes, ce que Dieu a mis dans ton cœur de faire. Vrai? Et puis c'est comme ça pour beaucoup de chrétiens qui essaient d'obéir aux commandements de Christ et qui ne prennent pas vraiment plaisir dans ces commandements, mais ils se sentent comme forcés. Ils sentent comme une pression qui vient soit, par exemple, de la peur de, pas moi, d'être repris, d'être puni, ou la pression qui fait de vouloir impressionner la galerie, plaire à quelqu'un d'autre. On se ramasse à faire des choses qui paraissent bien extérieurement, mais le cœur, le désir, il n'y est pas. D'ailleurs, mais on ne peut pas tromper Dieu. Il nous connaît, chacun de nous. Et en conséquence, plusieurs ne jouissent pas de cette liberté du cœur, désir que Jésus donne quand Christ lui-même est formé dans nos cœurs. Maintenant, il existe un dernier prérequis avant de pouvoir jouir de la pleine liberté. Supposons que tu réussisses à te rendre à l'aéroport sans problème, tu as aussi tout le savoir-faire, tu as ton certificat, ta compétence, tu pars en avion avec ton parachute sur le dos, tu t'apprêtes à sauter, tu regardes en bas, puis ah, c'est-tu beau. Tu peux distinguer les petits silos, là. Tu sais, les terres, tu sais, toutes carrées, là. C'est comme un damier. C'est-tu beau? Puis là, tu es prêt à sauter. Tu as hâte de sauter. Tu as le désir. Ah! Tu as hâte. Tu as l'occasion, tu as la capacité, tu as l'habileté, tu as le désir. Tout est là. Tu as la pleine liberté à jouer qui s'en vient. Et voilà, le moment arrivé, le signal est donné, tu sautes. C'est merveilleux. Et au moment où tu as cette sensation d'être libre, là, comme l'air, tu flottes dans l'air, quelque chose d'inattendu arrive. Ton parachute ne fonctionne pas. Il ne s'ouvre pas, puis il ne s'ouvrira pas. Maintenant, la question, c'est la suivante. Te sens-tu libre? Es-tu libre? Vous savez que bien des gens, sans Christ, au bout de leur vie, se ramassent avec un parachute qui ne s'ouvre pas. Oui, dans ces trois sens-là, tantôt je reviens à l'heure. Oui, dans trois sens, oui, on est libre. Mais dans le quatrième, c'est dans le critique, non. Parce que ce qu'il était en train de faire avec tant de joie, si librement, c'est en train de te tuer. Que tu veuilles ou non. Tu te retrouves esclave, condamné à mort. Et entre nous, ce serait une peu folie de se réjouir de sauter en parachute en sachant que ça te mène à la mort. Puis comme je répète tantôt, c'est ça, une vie, une fin de vie sans Christ. Et Dieu ne veut pas cela pour personne d'entre nous. Donc, afin de pouvoir jouir d'une pleine liberté, la liberté qui vient d'avoir l'occasion, la liberté d'avoir la capacité, la connaissance, le désir, l'amour de faire des choses, avec, il faut un but ultime de pouvoir en jouir et de profiter d'un bonheur éternel, de jouir de cette liberté pour l'éternité, de louer celui qui nous l'a donné. Et sur le plan spirituel, la pleine liberté, c'est celle qui mène à la vie éternelle, pas à la destruction, pas à la mort. C'est pour ça qu'en bout de ligne, là je m'adresse aux jeunes, parce que là j'étais content de voir qu'il y avait beaucoup de jeunes ce soir, puis au plus moins jeunes aussi. Pour tout chrétien, c'est naïf d'envier les non-croyants qui prétendent avoir toute la liberté au monde, qui se disent heureux parce qu'ils font ce qu'ils veulent, quand ils veulent, comme ils veulent, avec qui ils veulent. Parce qu'en réalité, ils ne sont pas libres. Ils sont esclaves, malheureusement. Dominés par l'appât du gain, de l'argent, du sexe, de la drogue, de la boisson, toutes sortes de convoitises, sont sans Dieu et sans espérance. Et tout ça, ça dure un temps. Le temps d'une vie qui passe comme une vapeur. Comme ça. Et le monde sans Dieu, qui se croit libre, qui se permet tout, enfin presque, malheureusement, comme je disais tantôt, ils ont en leur possession un parachute qui ne s'ouvre pas. Et le monde passe, sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. 1 Jean 2,17. Donc la vraie liberté, pas seulement d'avoir l'opportunité, l'occasion, la capacité qui nous donne, et le désir, mais c'est de le faire aussi, et qui va nous faire en sorte d'avoir le but ultime, d'en jouir comme Dieu veut qu'on en jouisse, pour sa gloire à lui, selon sa volonté à lui, pour le glorifier, pour l'honorer. C'est ça qui veut notre bonheur, Dieu. Comme un père pour ses enfants veut le bonheur de ses enfants, Dieu, notre Père, veut le bonheur de ses enfants. Et dans ce sens-là, tous ceux qui appartiennent à Christ sont... Donc, nous qui appartenons à Christ, nous sommes les gens les plus libres du monde. Parce que la liberté se trouve en Jésus-Christ lui-même. Et donc, être chrétien, appartenir à Jésus, c'est d'être réellement et pleinement libre. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme. Ne vous laissez pas mettre à nouveau sous le joug de la servitude. Prions. Ô notre Dieu et Père, nous sommes reconnaissants parce qu'un jour tu t'es révélé en la personne de ton Fils à nous. Tu nous as fait voir notre cœur méchant. Tu nous as fait voir qu'au bout du compte, sans toi, nous serions perdus sans espérance, privés de ta présence, privés de droit de cité. Nous étions condamnés sous l'empire du péché. Mais un jour, Jésus a choisi de venir ici. Il est venu librement. Il a pris un corps comme nous, puis à la croix, c'est pour aller à la croix porter nos péchés. Et là, il a versé son sang afin de nous libérer, nous donner la vie. En lui, nous avons la vie. Tu voulais nous séparer, nous délivrer de l'esclavage de nos péchés. Et c'est ce que tu as fait, Seigneur. Et c'est ce que tu veux faire encore aujourd'hui. Merci, Seigneur, pour ton secours. Merci pour ta parole. Merci pour ton œuvre. Merci pour la liberté que nous avons en Jésus-Christ. La liberté aussi de se réunir ce soir. Seigneur, tu es le Dieu de grâce. Et on est reconnaissant de ce qu'un jour, tu as voulu, dans ta grâce, te révéler à nous. Merci pour Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Merci pour ton esprit qui a révélé en nous le besoin d'aller à lui. Merci pour l'œuvre de Jésus à la croix. Et Seigneur, merci de ce qu'il est venu vraiment nous délivrer de l'esclavage, nous libérer, nous qui ne le connaissions pas, nous qui étions aveugles, tu nous as fait voir, Seigneur, ta bonté, ton amour, ta grâce. Merci, Seigneur, de nous avoir libérés. Et sépare-nous avec ta bénédiction, au nom de Jésus. Amen.